Et puis le dernier pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc chaque musulman, en principe, doit faire ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Alors là aussi, il y en a qui peuvent s'abstenir du pèlerinage. Par exemple, si on est malade, évidemment, on ne va pas le faire. Il y a aussi une autre condition, c'est que si telle personne, notamment les hommes, doivent ruiner leur famille pour payer les frais du pèlerinage, non, il doit s'abstenir. Il ne peut pas ruiner sa famille pour accomplir le rite du pèlerinage. Il y a beaucoup de musulmans qui attendent le plus possible pour accomplir la première fois le pèlerinage à la Mecque. Ils attendent d'être bien observants de la loi. J'ai rencontré des musulmans comme ça, qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, on ne le fait pas tout de suite, parce que lorsqu'on aura fait le pèlerinage, ça nous obligera à corriger notre vie, à être plus fidèles aux observances de l'islam. Et ils me disaient, maintenant je ne me sens pas capable. Vous voyez, on attend. Parce que normalement, c'est vrai que celui qui a fait le pèlerinage, ben voilà, il a bénéficié d'une expérience très forte et il doit donner le bon exemple à la communauté au sein de laquelle il vit. Alors le pèlerinage, c'est plusieurs rites. Alors il y a une période déterminée dans l'année où les musulmans se rendent pour faire le grand pèlerinage. Le grand pèlerinage, cette année, on a eu 3 millions de musulmans en même temps. Hier, je vous ai raconté le vêtement. Hein, ouais, voilà. 3 millions de musulmans en même temps, c'est... Bon, j'y pensais pendant la nuit, je me disais, tiens, mais au JMJ à Madrid aussi, il y a eu 3 millions. Paraît-il. Mais il paraît que non. Quelqu'un m'avait dit qu'il y avait seulement 1 million et demi qui ont pu participer aux célébrations, mais qu'en fait, il y en avait 3 millions. C'est pas... Oui. Oui, 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 ben, oui. Bon, enfin, ça vaut ce que ça vaut. Alors, il y a plusieurs rites pendant le pèlerinage. Donc, comme je vous l'ai dit, les hommes et les femmes sont revêtus d'une grande robe ample, blanche, sans couture, sans aucune décoration. C'est pour montrer l'égalité de tous devant Dieu. Les musulmans aiment bien dire, quand ils sont à la Mecque tous ensemble, qu'ils sont comme les dents d'un peigne, tous égaux. Enfin, quoi qu'il y ait des dents qui sont parfois, des peignes qui sont un peu dégradées, mais c'est comme ça. C'est une comparaison qui est fréquente chez les musulmans. Alors, les principaux rites, c'est de tourner autour de la Kaaba, le temple, hein, et si possible, de toucher, il y a à l'angle du temple, c'est un cube, je vous ai dit, hein, recouvert d'un grand drap de velours noir. Enfin, je suis jamais allée puisque c'est interdit aux non-musulmans, mais j'ai lu pas mal de récits. Donc, et sur ce grand drap noir de velours, on a brodé des versets du Coran en lettres d'or ou d'argent. Mais alors, dans l'angle, il y a une petite vitrine où derrière laquelle il y a la pierre noire qui est enchâssée par le temple. Alors, dans ce temps où il y avait les divinités, au temps de les premiers temps de la vie publique de Mahomet, je vous ai dit. Alors j'ai demandé il n'y a pas longtemps justement, au fond, d'où vient cette pierre noire. J'avais toujours entendu dire que c'était un météorite, une pierre tombée du ciel. Vous savez, bon, il y a des pierres qui tombent du ciel parfois, et que voilà. Et en fait, la personne à qui c'est une musulmane à qui j'ai demandé ça, elle m'a dit que c'est Adam qui avait apporté la pierre là, de la part de Dieu. Là, c'est un peu étrange comme explication, mais. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, et cette personne a fait le pèlerinage. Je lui ai dit, alors tu touches la pierre. Alors, elle m'a expliqué, on tourne autour de la Kaaba, mais c'est très dangereux parce que, vous savez, c'est des milliers de gens qui tournent ensemble. Et pratiquement chaque année, il y en a qui sont piétinés et qui meurent. Mais pour un musulman, mourir à la Mecque, c'est une bénédiction. Et oui. Bon, ils vont pas se suicider, ils vont pas faire exprès, mais voilà. Si la mort arrive à ce moment-là... Bon. Et alors elle m'a dit que quand on arrive à l'angle du temple, il faut s'efforcer de mettre la main sur la vitrine derrière laquelle il y a la fameuse pierre noire qui n'est pas grosse du tout. Et je lui dis, alors toi tu l'as touchée. Elle m'a dit, moi j'ai jamais réussi, mais je me suis approchée de près. Ben, voilà. Mais je ne sais pas quel est le sens de ce rite. C'est simplement que c'est demandé. Par contre, il y a un rite qui a un sens plus religieux, disons. À quelques kilomètres de la Mecque, les pèlerins se rendent et ils sont invités à lapider Satan. Oui, à lapider Satan. Alors, il y a une sorte de stèle dans la nature et ils jettent des pierres, des cailloux, hein, avec une formule rituelle pour rejeter Satan. Voilà, et c'est pendant le mois de, c'est pendant ce mois de Ramadan qu'il y a ce que les musulmans appellent la fête du sacrifice. C'est là qu'il il tue un mouton en général. Vous avez sûrement entendu parler de ça, n'est-ce pas? On tue un mouton en commémoration du sacrifice d'Abraham. Que je vous l'ai dit hier, le Coran reprend la demande de Dieu à Abraham de sacrifier son fils unique. Le fils n'est pas nommé, mais le fils, même s'il n'est pas nommé, il est sauvé. Dieu n'accepte pas qu'il soit tué par son père. Et il est remplacé par, nous on dit un bélier, eux disent un mouton. Et donc c'est en commémoration de cet épisode que chaque année, il y a la fête du sacrifice qui se déroule au même moment que le grand pèlerinage à la Mecque. Alors, les pèlerins qui sont là-bas le pratiquent là-bas et les autres chez eux. En tout cas, le pèlerinage à la Mecque jouit d'une recrudescence très très importante. Il était largement tombé en désuétude, comme beaucoup de rites de l'islam. Voilà les cinq piliers du culte musulman. Alors, je reviens un peu à l'idée du péché originel. Donc, je vous l'ai dit, le Coran n'en parle pas, mais le Coran dit que Adam a désobéi à Dieu, à un ordre de Dieu. Alors, ça n'a eu absolument aucune conséquence sur la création. Simplement, après ce péché, Dieu a promis aux hommes, aux premiers hommes, qu'il leur enverrait un livre pour les guider. Alors, voilà. C'est Dieu qui parle là. Assurément, de moi vous parviendra une guidance. La guidance, c'est le Coran. Quiconque aura suivi ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas misérable. Et celui qui se détournera de mon rappel, une vie de misère sera son lot. Sourate 20, versets 123 et 124. J'ai parlé de se détournera de mon rappel. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que l'islam se définit, enfin le Coran plutôt, se définit comme le rappel d'un pacte primordial. Donc, comme il n'y a pas de péché originel, il n'y a évidemment pas de rédemption. Ce qui compte dans l'islam, c'est la loi donnée par Dieu. Donc, il y a une loi, une morale, des observances, un style de vie, bien sûr, destiné à protéger et à promouvoir l'idéal musulman. Alors, le Coran affirme que après la mort, l'homme passe en jugement et qu'à la fin des temps, il ressuscitera avec son corps et son âme. Là, on a quelque chose de semblable au christianisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier, le jugement personnel? L'homme se présente devant Dieu et il a à ses côtés deux anges. L'ange des bonnes actions et l'ange des mauvaises actions. Les anges ont accompagné l'homme durant toute sa vie et recueilli et comptabilisé les bonnes et les mauvaises actions. Oui, le fait que la résurrection est prévue, c'est dans la sourate 6, verset 26. Ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Au passage, chez les musulmans, on ne supporterait pas l'incinération des corps à la mort. L'incinération se développe beaucoup dans les pays occidentaux. Dans les milieux musulmans, c'est absolument impossible parce que le fait d'enterrer le corps dans la terre, non, c'est vraiment dans l'attente de la résurrection des corps, voyez. Et puis, on revient à la notion de pureté et d'impureté. En général, les musulmans ne veulent pas être enterrés au milieu de non-musulmans parce qu'ils seraient en compagnie d'êtres impurs, voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle les musulmans demandent des carrés spéciaux dans les cimetières. Dans les pays où il n'y a que des musulmans, bon, la question ne se pose pas. Mais dans des pays d'Europe, les musulmans demandent à être à part, voyez. Et puis, normalement, les musulmans demandent à être enterrés la tête tournée vers la Mecque aussi. Alors, après, bien sûr, intervient le jugement de Dieu. Alors, le paradis ou l'enfer? Au début de sa prédication, je vous l'ai dit hier, Mahomet n'était pas bien accueilli par les Mécois. Et alors, il assortissait sa prédication de peines eschatologiques, de menaces eschatologiques. Il leur disait que, attention, si vous ne suivez pas le monothéisme musulman, et si vous ne remédiez pas à votre attitude immorale, c'est l'enfer qui vous attend. La période mécoise abonde de manière incroyable de versets relatifs à ce qui attend celui qui n'accepte pas l'islam. C'était évidemment pour un peu forcer les... plus qu'un peu, pour forcer les consciences, en quelque sorte. Alors là, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Au moins 8 fois, il est question de la peine de l'enfer. Mais aussi le paradis. Le paradis, bien sûr, est prévu pour les musulmans qui auront été fidèles, donc qui n'auront pas cédé à la tentation de l'associationnisme, notamment. Même si un musulman est un mauvais musulman, dans la mesure où jusqu'à sa mort, il se dit musulman, eh bien, il gagne le paradis. On dit gagner le paradis. C'est l'idée de succès aussi, comme je vous ai dit hier. On gagne le paradis, ou alors on va en enfer, et là, si on va en enfer, on est au nombre des perdants. On gagne ou on perd, en quelque sorte. Alors, concernant l'enfer, normalement, un musulman qui a assumé son identité musulmane jusqu'à la fin de sa vie, il peut aller en enfer, mais c'est provisoire. C'est une punition temporaire. Tôt ou tard, donc le musulman qui s'est assumé, eh bien, il va aller au paradis.